sur Phare FM, la radio autrement avec vous dans la nuit autrement. Bienvenue.
La Bible dit:
confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
I've been down, I've been broken. The younger me would be so proud. I'm in this moment, lost and found. But it's not over. If future me could see me now, I'd say keep going. In the war, I found peace. Through all my blind spots, now I see. I can't erase the damage done, but I'm not hopeless. No, I'm not hopeless. No, I'm not.
Help myself. des océans, des déserts. De s'arrêter.
Gaëtan Roussel, Help Myself sur Phare FM, 1h06. Notre programme se poursuit. J'espère que vous vous portez bien et bon courage à vous qui travaillez. On poursuit avec, on va retrouver d'ailleurs deux réflexions, plein de vie avec Jean-Marie Ribet tout à l'heure et puis Hommes et Femmes, Mode d'emploi. Et comme promis, on poursuit en musique. École Pierre comme toi tout à l'heure. People of the Airs et la chanson Your Love Is, c'est tout de suite. La nuit autrement
avec Mireille.
Healing it. inverses dont je suis la proie. Si les portes claquent, je les traverse en prenant ma croix. Si mon cœur s'épuise, la haine se dresse comme les montagnes. Sur toi je m'appuie, la peine s'abaisse car tu m'accompagnes. Et quand je chavire, tu es mon secours. Malgré mes faiblesses, ton regard ne change pas. Je désire aimer à mon tour, choisir de te suivre. Donne-moi d'aimer comme toi, comme toi. Je choisis d'aimer comme toi, comme toi. Donne-moi d'aimer comme toi, comme toi. Je choisis d'aimer comme toi, comme toi. La peur, le vice, le mal se dressait en face. Je porte avec moi tes armes, père, la terreur s'efface. Devant ta splendeur, l'ombre s'éclaire, les murailles s'effondrent. Avec toi, Seigneur, si je t'appelle, tu sauras répondre. Et quand je chavire, tu es mon secours, malgré mes faiblesses. Ton regard ne change pas, je désire aimer à mon tour, choisir de te suivre. Donne-moi d'aimer comme toi, comme toi. Je choisis d'aimer comme toi, comme toi. Donne-moi d'aimer comme toi, comme toi. Je choisis d'aimer comme toi, comme toi. De l'orage,
moi je veux aimer comme toi.
Si je perds courage,
moi je veux aimer comme toi.
Malgré les virages,
moi je veux aimer comme toi.
Verra ton image,
moi je veux aimer comme toi.
J'emporte l'orage,
moi je veux aimer comme toi.
Si je perds courage,
moi je veux aimer comme toi.
Malgré les virages,
moi je veux aimer comme toi.
Verra ton image,
donne-moi d'aimer comme toi.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Jean-Marie Ribet.
J'ai vraiment envie de parler de l'Église, de parler de cette société que nous sommes. La réalité de l'Église et la légitimité de l'Église a toujours été aussi contestée dans tous les siècles. Et aujourd'hui encore, j'entends quelquefois des gens me dire « Mais oui, l'Église, bon, c'est bien, mais finalement, je vais chez moi le dimanche matin, je peux bien tout seul prier Dieu, et je peux aussi lire la Bible tout seul, et je peux aussi aimer mon prochain tout seul, et je peux aussi parler de Jésus, comme ça, des gens, tout ça. » Je dis « Oui, absolument, vous avez totalement raison, vous pouvez, mais la plupart du temps, vous ne le ferez pas. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Non seulement c'est dommage quand quelqu'un ne rentre pas vraiment dans la vision de son identité dans le corps, c'est dommage pour lui, mais c'est dommage aussi pour nous parce qu'il nous manque. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Donc c'est un dommage pour tout le monde. L'Église, le premier point, c'est que l'Église est voulue de Dieu. L'Église, c'est plus. Matthieu 16, 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Si on fait un peu de la conjugaison, c'est un verbe à la première personne. Et ça veut dire que c'est Jésus qui le fait. Il a dit « je ». C'est son œuvre. C'est quelque chose qu'il a dit qu'il ferait. Il a dit « je bâtirai mon Église ». Et tout de suite, il a situé cette réalité de l'Église face à un défi, face au monde spirituel. Et il a dit « les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Donc, la toute première fois dans le Nouveau Testament, on parle de l'Église, on en parle en le situant dans un conflit. Il y aura des difficultés, c'est un défi. C'est pas étonnant que l'Église de Jésus-Christ sur la surface de toute la terre, mais aussi que chaque Église locale, c'est pas étonnant que cette réalité, cette croissance, cette existence même, c'est pas étonnant qu'elle soit dans un combat, dans des difficultés. La première fois où Jésus en a parlé, il a déjà dit que ça serait face à un combat. Mais il nous a dit que nous avons la victoire en lui. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc ce n'est pas notre église, ça c'est reposant, ce n'est pas la nôtre, et ce n'est pas notre œuvre. Nous participons, c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui a posé la fondation, c'est lui qui connaît les plans, c'est lui qui a le projet, c'est lui qui nous donne les outils, les matières premières, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui donne la force. Et c'est lui qui parviendra à son but. C'est même une église que Dieu prépare avec soin. Éphésiens 5, 27, on connaît ce verset qui compare l'église à une épouse et qui dit qu'elle va se préparer sans tache ni ride jusqu'à être parfaite, glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que Dieu prépare pour l'Église. Cette Église a commencé à exister dès la résurrection de Jésus. Moi, je situe le début vraiment de l'Église à la résurrection, comme il en était question tout à l'heure. Vous avez cette image dans la Genèse. Quand Adam, plutôt, s'est rendu compte qu'il était seul, alors Dieu lui a dit, je vais te donner une aide semblable à toi. Et vous savez, vous vous rappelez de cette image que Adam est tombé dans un profond sommeil. Et Dieu lui a enlevé une côte pour, de cette côte, faire une épouse. Alors nous, dans notre approche moderne, un petit peu occidentale, évidemment, l'idée de prendre à quelqu'un une côte, bon, on se dit qu'il vaut mieux faire une anesthésie, quoi. Donc c'est l'idée qu'on se fait du fait de prendre une côte. Mais ça, c'est notre vision seulement moderne. Mais en fait, Dieu pouvait aussi bien prendre à Adam une côte sans lui faire de mal. Avant le péché, la souffrance, la douleur n'existait pas. Dieu pouvait bien lui prendre une côte sans qu'il ressente rien, sans que ça lui fasse du mal. Mais il y a un symbolisme là-dedans. Pas seulement un sommeil quelconque, c'est un profond sommeil. Et ce profond sommeil, c'est l'image de la mort. C'est à travers cet épisode qui représente, qui symbolise la mort, que Adam a donné naissance à travers cette image de la mort à son épouse. Parce que ceci, c'est l'image de Christ qui a donné naissance à l'Église quand il est passé par la mort. C'est parce que Christ a aimé l'Église et qu'il a donné sa vie pour elle, qu'il a donné naissance à l'Église. L'Église est vraiment le prolongement de la vie de Christ. Et quand elle a commencé au début, à Actes 2, 42, l'Église primitive, c'est-à-dire la première génération après Jésus, les premiers chrétiens n'ont pas vécu seulement comme se réjouissant chacun individuellement d'être sauvés, mais ils ont vécu la société chrétienne. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est pas seulement qu'ils mangeaient ensemble, mais c'est qu'ils célébraient le repas du Seigneur. Et dans les prières, quand des gens persévèrent ensemble dans quelque chose, ça veut dire que ça fait partie maintenant de leur vie continue. En tout cas, ça veut dire que c'était qu'ils ont fondé une vie commune dans laquelle ces choses se réalisaient. Ils ont très bien compris. Les Français sont peut-être encore plus individualistes, ce qui fait qu'on a toujours le sentiment que tout doit être pour soi tout seul. Et nous sommes arrivés à la connaissance de l'Évangile avec cet arrière-plan culturel. Alors on a fait de l'Évangile seulement quelque chose qui est individuel. Tu vas connaître, tu seras sauvé, tu iras au ciel, mais c'est pas seulement tu, c'est que c'est une société l'Église. Les premiers chrétiens ne parlaient pas seulement de l'Évangile comme d'une relation seulement personnelle. Elle est personnelle, c'est sûr. Mais dès que nous sommes sauvés pour exister dans la société familiale, dans la société civile de Dieu, qui est sa famille, qui est l'Église. Et c'est pourquoi nous persévérons dans ces choses. Deuxième point. Je vous présente trois visages différents de l'Église, il y en a d'autres. Mais l'Église est quelquefois présentée dans le Nouveau Testament comme un corps, quelquefois comme une famille et quelquefois comme un troupeau. Il y a aussi d'autres aspects, mais j'ai pris seulement ceux-là. Par exemple, c'est un corps. 1 Corinthiens 12, 12, Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous formons un seul corps. Ça, c'est vrai. D'une part pour l'Église universelle à la surface de toute la terre, mais chaque Église locale est aussi d'une certaine façon corps de Christ. Mais quand Paul, par exemple, écrit aux Corinthiens, il leur dit « Vous êtes le corps de Christ ». Pourtant, il écrit à une seule Église locale. Et à cette Église locale, il leur dit « Vous êtes le corps de Christ ». Non pas que chaque Église locale soit seul autonome et doit ignorer ce qui se fait tout autour. Mais chaque église locale existe comme étant la manifestation du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et enfin, les versets 25, 26, qui parlent des divisions, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de division. Et souvent, le Nouveau Testament nous parle de ce danger qu'il y a des divisions. Quand on parle de l'unité de l'Église, il y a eu dans le temps peut-être de mauvaises compréhensions. Une mauvaise compréhension excessive, ça a été de présenter cette unité de l'Église comme une uniformité. Ce que je veux dire, c'est que la Bible, l'unité de l'Église ne nous demande pas d'être tous pareils. Nous avons le droit, et c'est légitime, d'avoir des goûts différents, même des opinions différentes. Bien sûr, il y a des fondements bibliques qui sont incontournables. Hein, si on ne croit pas que, par exemple, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés, alors évidemment, ça, c'est pas discutable. Mais on peut avoir des points secondaires de doctrine sur lesquels on peut avoir des idées différentes. Je veux dire, on peut être unis, mais avoir des différences, c'est ces différences qui font la richesse et la diversité, la complémentarité du corps. Si l'Église est un corps, alors elle est structurée. Dans notre corps humain, il y a des structures de commandement. On sait que, par exemple, le commandement des muscles part du cerveau, les nerfs transmettent l'influx nerveux, et puis le commandement arrive. Eh bien, dans le corps de l'Église, il y a aussi une structure. Éphésiens 4, 11, 13 parle de cette structure. Dieu a donné dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Donc ça veut dire c'est les uns et les autres. Par définition, c'est pas tout le monde. C'est pas une gloire d'être appelé à quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est comment on s'acquitte de la fonction que Dieu nous donne. Mais nous avons tous une fonction. Que quelqu'un soit apôtre ou prophète, ou qu'il soit serviteur de Dieu dans sa tâche, dans sa famille, sur son lieu de travail, qu'il gagne des âmes, nous avons tous à servir Dieu. Et ce que Dieu nous demandera, c'est ce que nous avons fait dans notre service. Donc ce n'est pas en soi une valeur ou un mérite d'être berger, enseignant ou pasteur, pour reprendre le mot classique. Mais en attendant, ces passages montrent bien que ceci existe. Et il y a toujours eu, dans l'histoire de l'Église, des temps où des fausses doctrines et des influences mauvaises ont essayé de saper toutes ces choses-là. Alors, la question, ce n'est pas de savoir s'il y a des gens qui commandent et qui se mettent au-dessus des autres par plaisir. Mais d'un autre côté, Dieu dit clairement qu'il a mis dans l'Église une structure qui vient de lui, qui n'est pas de la volonté des hommes, mais qui vient de lui, pour que le corps soit organisé, qu'il marche ensemble. Et ceux qui reçoivent ces fonctions ont à charge de s'en acquitter avec humilité, avec dévouement, et ils sont qualifiés par Dieu. Donc ces structures existent. Et un deuxième aspect de l'Église, c'est que c'est une famille. Si nous disons tous, Jésus nous a appris, nous prions notre Père. Mais si moi je m'adresse à quelqu'un en l'appelant Père, et si toi tu t'adresses à lui en l'appelant Père, ben c'est qu'alors c'est qu'on est frère. Ah oui, si on a tous le même Père, c'est qu'on est frère et sœur. Hein. L'Église est une famille. Hein. Et s'aimer les uns les autres est un vrai défi. 1 Jean 3, 10, 14. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Regardez comme ce verset est compromettant et radical. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire que quand nous prétendons être sauvés, être chrétiens, avoir la vie éternelle, la Bible nous dit, alors il y a des signes qui montrent si c'est vrai ou pas. Et un signe qui montre que c'est vrai, c'est que nous aimons nos frères et sœurs, parce que nous aimons les frères, c'est comme ça que nous le savons. Celui qui n'aime pas ses frères demeure dans la mort. Vous voyez, des fois, il y a des éléments doctrinaux qui sont difficiles à comprendre. Mais alors ça, c'est simple. La preuve que nous marchons avec le Seigneur et que nous sommes dans la foi, c'est que nous avons de la communion fraternelle, c'est que nous aimons les autres. Et comment quelqu'un pourrait-il grandir dans la communion fraternelle avec une doctrine où chacun reste chez soi et sert Dieu tout seul ? C'est tellement facile d'aimer son lointain. Mais la Bible nous dit d'aimer son prochain. Évidemment, si nous commençons à nous rencontrer, que nous découvrons les défauts des autres, s'ils en ont. Alors, on va être obligé de se découvrir, de se frotter, on va avoir des problèmes, on va redécouvrir des vieux dictons comme « qui s'y frotte s'y pique ». Et c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir répondre à ce défi et réellement faire des progrès. Mais en restant tout seul, on ne peut pas faire de progrès. Quand quelqu'un est tout seul, il est sûr qu'il est le meilleur, du reste, il a raison. Non, il nous faut apprendre à nous aimer. Encore 1 Jean 4:20. Mais si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? C'est du bon sens. Mais exprimé avec cette logique-là, ça devient implacable. Nous ne pouvons pas nous permettre de haïr quelqu'un. Et naturellement, il y a des gens avec qui on a des atomes crochus, ça va tout de suite. Mais une des forces de l'Église, c'est de nous amener à être changés. L'amour est agissant. 1 Jean 3:18. On pourrait finir avec cette première épître de Jean qui est très importante sur ce sujet. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça, c'est pour souligner que la Bible dit non, ça c'est faux. Si on aime quelqu'un, on l'aime en action. S'il n'y a rien qui se fait, c'est pas possible. Le troisième aspect de l'Église, c'est que l'Église, c'est un troupeau. Luc 12, 32, Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous voyez le paradoxe qu'il y a dans ce verset. C'est un petit troupeau. Déjà, un troupeau, normalement, ça possède de rien du tout. Alors, c'est un petit troupeau. Jésus reconnaît et dit, l'Église, c'est quelque chose qui, aux yeux du monde, a rarement bonne presse, est considéré. Et très souvent, les Églises sont petites, insignifiantes, discréditées, mal jugées, etc. Mais Jésus dit à l'Église, ne crains pas. Dieu a décidé de vous donner le royaume. Il a jugé bon, c'est-à-dire qu'il a jugé que c'était bon. Il a jugé que c'était juste. Donc c'est une force, ça nous encourage. Donc, troisième point, Dieu a donné à l'Église des dirigeants. Et ces dirigeants sont appelés par Dieu. Toutes les églises dans lesquelles les dirigeants, les pasteurs, les enseignants, ne répondent pas à un appel précis de Dieu, un appel personnel, ces églises-là sont dans des situations très périlleuse. Parce que la bonne volonté de l'homme, même si bonne soit-elle, n'est pas la volonté de Dieu. On sert Dieu parce qu'on a été appelé, je veux dire, dans le ministère. Et c'est ça qui donne la force, c'est qu'on sait que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Des fois, j'ai demandé au Seigneur, je dis, mais pourquoi moi ? Je ne me sentais pas forcément qualifié. Je dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui prêche ? Et vous savez, la seule chose que j'ai vraiment compris de la réponse de Dieu, c'est que ça ne me regardait pas. Et c'est vrai, c'est Dieu qui a ses choix, c'est Dieu qui connaît les personnes et il sait pourquoi il choisit quelque chose comme ci, comme ça. Il n'y a aucun mérite derrière ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus a choisi ses apôtres de façon nominale. Le Saint-Esprit a fait nommer les premiers missionnaires, Saul et Barnabas, de manière nominale, on passe sur ça. Ce sont des gens qui doivent être normalement dévoués. Jean 10, 11 parle du berger, de la vraie qualité du berger. Bien sûr, Jésus se l'appliquait à lui-même, mais s'il nomme d'autres bergers, il s'attend à voir chez eux la même qualité. Et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est normal de s'attendre à ce que les pasteurs, les bergers, soient des gens qui consacrent réellement leur vie au service de Dieu. Pour eux, c'est un défi que personne naturellement n'est capable de relever. C'est un défi qui me dépasse et qui dépasse tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ne nous prend pas au piège. Dieu ne donne à personne des ordres sans lui donner les qualifications pour y répondre. Sinon, quelque part, ce serait un piège, ce serait grave. Hein, si Dieu nous appelait pour ensuite nous dire « Alors, hein, tu vois, tu n'y es pas arrivé. » Et Dieu ne fait pas comme ça. Il nous appelle et il nous donne les opportunités, les temps, la compréhension, la connaissance, ce qui est nécessaire. Alors, on a des fois réussi et puis des fois, on n'a pas réussi. Des fois, on n'a pas été dévoué comme on devait l'être. L'Église le sait. Mais est-ce que ça nous empêche de compter sur le Seigneur? Est-ce que ça ne nous empêche pas de nous repentir, de lui demander pardon et de lui demander de nouveau de nous remplir du Saint-Esprit, de nous remplir de nouveau de sa grâce, de sa force, de sa volonté? Presque tous les matins, je dis au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre par moi comme elle est faite au ciel. C'est ce que nous voulons. Et si l'Église prie pour ses pasteurs afin qu'ils aient à cœur de faire leur travail avec dévouement, ils vont aussi être aidés. Avant de se lancer dans le travail, Jésus leur a dit « Attendez à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit, descendra sur vous, hein, vous serez remplis de puissance, etc. » Alors aujourd'hui, bien sûr, la Pentecôte est arrivée, nous n'attendons plus la Pentecôte, nous vivons la Pentecôte, mais dans chacune de nos tâches, il n'empêche que nous avons besoin de recevoir les qualifications de Dieu. Pour quoi que ce soit, nous avons besoin d'être qualifiés. Ne voyons pas seulement la puissance de Dieu à travers les miracles de guérison, chasser des démons, etc. Tout service de Dieu, pour être bien fait, doit être fait avec l'Esprit de Dieu, quelle que soit la tâche. Une ménagère, elle organise un repas pour recevoir des gens. Pourquoi ne pas demander au Seigneur sa grâce pour que ce soit bien fait? Mais dans toutes les tâches, demandons à Dieu. Des fois, des petites choses bien faites ont un impact extraordinaire. Quatrièmement, le rôle des chrétiens envers les bergers. J'aime lire Hébreux 13, 17, même si c'est un verset qui, quelquefois, n'est pas très populaire. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Pour un français moyen, c'est un mot difficile à entendre. Obéir, on n'aime pas. Et dans notre société moderne, j'allais dire, toutes les figures d'autorité ont été totalement dévaluées. Dans une entreprise, dans une usine, il y a des postes de commandement où on ne trouve plus aucun volontaire pour les tenir. Les postes de commandement de niveau, ce qu'on appelait contremaître, maintenant on a un peu changé la terminologie, mais ça personne ne veut plus parce qu'en dessous personne ne veut plus obéir. Les élèves ont appris maintenant aujourd'hui qu'ils peuvent ne pas obéir, qu'ils peuvent quand même faire des études et aller au bout sans avoir obéi. Personne ne veut plus obéir. Donc dans les familles, l'obéissance devient quelque chose de difficile. Beaucoup de parents n'ont plus compris qu'ils pouvaient espérer se faire obéir. Alors comme ils n'ont pas cru que c'était seulement possible, ils n'ont pas essayé. Et donc on est dans un monde où toutes les figures d'autorité sont complètement discréditées, dévaluées. Alors nous sommes arrivés dans l'Église avec cet arrière-plan philosophique. Alors quand dans l'Église, tout d'un coup, quelqu'un a l'idée un peu comme ça, farfelue, de lire Hébreux 13, 17, bon ben ça choque, on dit mais il a été chercher ça où? Mais ce qui est écrit, c'est quand même obéissez. Alors, quand je dis ça, je sais que je peux choquer des gens. À plusieurs, ça va renvoyer des images désagréables et peut-être quelquefois avec un fondement. Il y a des gens qui ont souffert de la part de figures d'autorité. Des gens qui, dans leur petite enfance, ont dû, de force, être soumis, par exemple, à un père ou à des parents qui représentaient une forme d'action de l'autorité qui était irrecevable, qui était mauvaise, qui était peut-être abusive ou qui était injuste. Ou peut-être il y a des gens qui ont été pendant un temps chrétiens dans des structures d'église où l'autorité était abusive, où elle a imposé des choses qui n'étaient pas justes, où les gens ont eu le sentiment d'être pressés ou manipulés, etc. Mais écoutez bien, l'autorité voulue de Dieu n'est jamais une autorité qui diminue, qui compresse les gens, qui les empêche de penser, de vouloir. Au contraire, l'autorité de Dieu a pour fonction de nous libérer. L'autorité de Dieu, bien comprise, est une autorité qui est constructive et qui nous amène à une vraie capacité d'action. Donc, dans l'Église, eh bien, les chrétiens sont appelés à obéir à leur conducteur. Obéir, ça ne veut pas dire devenir servile. Obéir, ça ne veut pas dire devenir des esclaves. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu sa capacité d'être critique dans le bon sens du terme. Ni ici, ni nulle part ailleurs, vos pasteurs ne sont parfaits. Je n'en ai pas connu des parfaits, moi. Parfaits ou pas parfaits, ce n'est pas eux qui sont les modèles. Le modèle, c'est Christ. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il ne s'agit pas d'idéaliser, il ne s'agit pas d'idolâtrer quelqu'un. Les pasteurs, ils sont des gens normaux, ils sont des gens comme vous et moi. Ils essayent de s'acquitter de la fonction que Dieu leur a donnée, c'est tout. Comme vous, vous vous acquittez de la fonction que Dieu vous donne là où vous êtes, et nous répondrons chacun de ce que nous faisons. Mais en attendant, puisque Dieu a créé une structure, ça sera notre force de rentrer dans le plan de Dieu. Et refuser ce plan de Dieu, ça sera toujours quelque chose de difficile. Les respecter, avoir de la déférence, comme je l'ai dit, ce n'est pas les idolâtrer, ce n'est pas le culte de la personnalité. Jésus a dit, ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 14. Jésus a posé le principe du soutien financier des serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. L'apôtre Paul lui-même a décidé que pendant presque toutes les années de son service, il y a renoncé volontairement pour certaines causes. Mais le principe reste vrai, reste légitime et reste possible. Comme le dit aussi Galates 6:6, faites une part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Mais c'est logique, s'ils sont dévoués, évidemment si leur rôle consiste de temps en temps à faire une cérémonie, à prêcher devant 25 personnes et puis faire une petite publication une fois par-ci par-là, on se demande si ça vaut vraiment le coup. Mais si les pasteurs sont vraiment des gens qui se donnent à fond toute la journée, toute la semaine pour l'œuvre de Dieu, ben c'est normal que de temps en temps ils mangent aussi un petit quelque chose. Cinquièmement, il y a eu beaucoup de séduction contre l'Église au cours des siècles. Et c'est valable aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hébreux 10, 25 se prononce contre cette manière de vivre, de comprendre. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, etc. Vous voyez le début, n'abandonnons pas notre assemblée. Le mot ici, assemblée, dans ce verset, en grec n'est pas ecclésia qui représente l'église locale. Episynagogé, c'est un mot qui contient la racine de se rassembler. Le sens de cette ligne, c'est ne renoncez pas à vous rassembler. Ce n'est pas l'interdiction de sortir d'une église locale quand on en a été membre. Mais l'idée est importante. L'auteur dit, ne renoncez pas à vous rassembler. Vous en avez besoin, vous êtes un corps. Corinthiens 11, les versets 29-33. Alors bien sûr, ce passage de 1 Corinthiens 11 parle essentiellement du corps de Christ en tant que le corps de Christ, le corps physique, l'identité de Christ qui a été brisée. Les passages 10, 11, 12 parlent aussi du corps de Christ, c'est-à-dire nous, l'ensemble de l'Église. 1 Corinthiens 11, 29, 33. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Ce repas du Seigneur n'a pas de sens si on le faisait chacun chez soi. Parce qu'en prenant le corps du Seigneur, nous affirmons aussi que nous sommes le corps de Christ. Cette idée est autant développée dans 1 Corinthiens 11 que celle du corps de Jésus qui a été sacrifié pour nous. Et l'idée de prendre le repas du Seigneur, c'est de manifester que nous le prenons tous ensemble. Et la fin de ce passage dit « lorsque vous vous réunissez ». Ce n'est pas « si il arrivait que vous vous réunissiez », non, c'est « lorsque ». C'est-à-dire que pour Paul, c'est clair que c'est ce que les disciples vont faire, parce que nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens les uns à côté des autres. Nous sommes une société. Le refus de l'autorité, de Corinthiens 10, 8, personne ne doit commander, il n'y a pas d'autorité. Vous savez, ceux qui disent ça, le plus fort, sont la plupart du temps des gens qui convoitent l'autorité et qui ont besoin d'aider des personnes à sortir du cadre légitime d'une église pour prendre de l'emprise sur eux. Et puis, dans les séductions, vous avez aussi l'ambition personnelle qui a quelquefois amené des hommes de Dieu à comprendre l'église comme le tremplin de leur propre gloire. C'est vrai aussi. Dans 3 Jean 9, l'apôtre Jean dénonce le responsable d'une église et il dit qu'il aime à être le premier. Jean ne dit pas que c'est illégitime que quelqu'un ait été la tête de cette église. Ce qu'il dénonce, c'est que cette personne aimait ça. C'est que son projet, c'est d'être le premier. Quand Jésus a parlé à l'apôtre Jean des différentes églises qu'il y avait dans l'Apocalypse, cette église d'Asie mineure, Jésus lui-même, à chaque fois, il dit d'envoyer cette lettre au responsable de cette église. Et c'est au singulier. Jésus ne dit pas aux chrétiens qui sont dans cette zone. Il parle de chaque église comme une société organisée avec une tête. Dans le Nouveau Testament, on parle des églises de maison. Mais ça voulait dire quoi, une église de maison? Dans une société rurale. En Chine, on parle des églises de maison. Quand des fois les missionnaires sont allés, on leur a dit, tiens, vous voulez visiter? J'ai une église de maison. Le gars, il est allé, ouais, volontiers. Il s'attendait à trouver 10 personnes autour d'un fourneau. Ils étaient 400, 500, 800. Alors, vous voyez, ces histoires de nombres n'ont pas de raison d'être. Ce sont des faux problèmes. Ce qu'il nous faut, c'est développer la vraie communion fraternelle. Il ne devrait pas y avoir de dirigeants, mais un troupeau sans un berger, vous savez ce que ça donne? Il y a toujours des scandales. Oui, il y en a eu. Même dans la bande à Jésus, parmi les 12, il y avait déjà un traître. Et je me dis quand même, 1 sur 12, comme proportion, je trouve, c'est déjà pas bon. Il y a des scandales. Il y en a eu. Malheureusement, il y en aura encore. L'amour fraternel, 7, c'est le dernier point. L'impact de l'Église dans la société. L'amour fraternel, Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà des choses qui sont la démonstration de ce qu'est l'Église. Et enfin, Éphésiens 3, 10. Afin que les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce verset m'avait un petit peu étonné au début parce que je l'avais mal lu. J'avais eu l'impression en le lisant qu'il était question de la sagesse infiniment variée de l'Église. Et quand je regardais l'Église, j'avais pas forcément l'impression que l'Église montrait une sagesse formidable, une sagesse infiniment variée. Mais j'avais mal lu. On parle pas ici de la sagesse infiniment variée de l'Église, mais de la sagesse infiniment variée de Dieu qui dirige l'Église. C'est pas pareil. Alors on dit oui, mais quand on voit ce qu'est l'Église, c'est... Mais justement, ça montre que Dieu est sage. Ça veut dire que dans les lieux célestes, toutes les autorités spirituelles dans les lieux célestes regardent vivre l'Église. Et ils se disent les uns aux autres, ils se disent, mais quand même, regarde comme ils sont quand même pas terribles. Et alors il y a un autre qui répond, il dit, et Dieu arrive à les mener quelque part. Dieu est fort, hein. Pour que Dieu arrive à faire ce qu'il fait avec des gens comme ils sont, alors c'est que Dieu est fort, hein. Voilà, l'Église montre au monde invisible la sagesse infiniment variée de Dieu qui est capable de nous mener quelque part. Moi, j'ai envie de l'Église. Moi, je crois à l'Église. Je crois à l'Église dans une société déstructurée, dans une société qui ne sait plus où elle en est, dans un monde qui est déboulonné, dans le monde où les gens ne savent plus où ils sont. Ils ont besoin de voir qu'il y a une société différente, une société dont Dieu est le chef, que Dieu dirige, une société qui veut libérer ses membres, une société qui veut donner à chacun la possibilité de grandir dans la liberté. Une société dans laquelle on comprend que nos arrière-plans et nos blessures peuvent être guéris. Une société qui nous aide à comprendre que là où on a été peut-être traumatisé dans le temps, nous sommes maintenant face à un bon berger qui veut prendre soin de nous. Un bon berger qui a un plan et qui a un projet pour nos vies et qui a un projet pour nous tous ensemble. Ça vaut le coup de nous aimer les uns les autres. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Phare FM, une autre musique.
Tis Never Enders sur Phare FM. Hommes et femmes, mots d'emploi, c'est votre prochain rendez-vous, ne le manquez pas. Ce sera après Andrew Bell, Pieces, et puis ici Winans maintenant, et la chanson Come Jesus Come. Bienvenue si vous venez de rejoindre la radio autrement.
Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't.
Pieces. All of your Femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des besoins chez l'homme.
Je vais vous donner la liste qui est le résultat. Pour les hommes, Rachel vous donnera celle pour les femmes. Mais si vous ne vous reconnaissez pas dans tous ces besoins, c'est OK. Ça veut dire simplement que vous êtes différent. Ça veut pas dire, tout le monde ne doit pas être comme ça.
C'est juste pour nous aider à réfléchir, en fait. C'est intéressant.
Voilà, c'est le résultat majoritaire. Donc, en fait, le premier besoin qui sort pour l'homme,
vous pouvez
à votre avis,
la sexualité.
C'est le besoin. Et oui. Alors, tu as raison, partiellement, parce qu'en fait, oui, le besoin numéro un, c'est la sexualité chez l'homme. Alors, on ne va pas le développer tout de suite, on le développera dans une émission suivante. Soyez rassurés, on va en parler.
On va prendre le temps d'en parler.
Mais le deuxième, en fait, c'est le premier ex aequo avec le besoin sexuel. Pour l'homme, c'est le besoin d'être admiré et respecté par qui ? Par son épouse.
Exactement.
Extrêmement. Voilà. Ça parle à Guillaume. Donc, on va y revenir. Ensuite viennent d'autres besoins qui peuvent être le soutien domestique, par exemple avoir une maison quand on rentre du travail qui soit belle, bien rangée, en ordre, etc. Il peut y avoir aussi avoir une épouse qui sache rester attirante, attractive, qui prenne bien soin d'elle parce que c'est important pour certains hommes. On peut être différents les uns des autres, mais c'est important. Avoir du fun ensemble, avoir des moments de détente ensemble. Et puis aussi, un autre besoin qui n'est pas incompatible, c'est avoir du temps tout seul. Et ça ne veut pas dire que c'est un rejet de l'épouse, mais en tant qu'homme, on peut avoir besoin, comme certains le disent, d'être dans notre petite boîte à rien, où on est tout seul et on s'occupe tout seul et on a besoin de rien d'autre.
Je ne sais pas pour ceux qui nous regardent, mais moi là, je coche toutes les cases.
Voilà, tu coches toutes les cases, très bien.
Ça va. Tu rentres dans la catégorie homme et dans les priorités ?
Je crois que non, les priorités sont les
bonnes. Ils sont bien dans l'ordre pour toi aussi.
Ouais, le respect et... On existe dans le regard de nos femmes.
C'est ça.
Ce qu'on est.
Donc c'est super important de savoir ça.
Oui, absolument.
Mais est-ce que c'est suffisant de savoir ça ? Moi, si Eric me dit « j'ai besoin que tu me respectes », mais bien sûr que je le respecte, ouais, mon chéri. Bien sûr que je le respecte. Oui, mais concrètement, des fois, il pouvait avoir l'impression que je le respectais
oui,
pas.
Absolument.
Et donc je faisais des faux pas, ça pousse les boutons dont on a parlé hier, etc.
Ça crée une danse de la peur.
Je me sens pas respectée, mais qu'est-ce que j'ai fait qui fait que tu ne te sens pas respectée ? Ou plutôt, la meilleure question va être... Qu'est-ce que je peux faire qui va faire que tu vas te sentir respecté ?
Et encore une fois, je ne vais pas exiger de ma femme quelque chose. J'exige ça de toi.
Non, pas du tout.
Non, ce n'est pas une exigence. C'est voilà mon code secret, mon mode d'emploi. Et si tu fais ça, je vais me sentir le roi du monde. Quoi. Je vais être tellement heureux, je vais me sentir respecté. Et ça va me donner confiance en moi parce que ma femme m'a apporté ce dont j'avais besoin.
En fait, il faut pousser la réflexion un cran plus loin. Et donc ma question pour toi, mon chéri, c'est pour que tu te sentes respecté, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Phare FM, ma radio.
Là, ma fenêtre, le soleil, oui. Il y a mon cœur, triste et mon seul, posé en contemplant la ville. Pourquoi tu pars ? Comme à chaque nuit, les yeux ouverts, je pense à toi. Et sur ma montre, chacune des heures défile. Pourquoi tu pars ? Toutes les promesses de mon amour iront avec toi. Tu m'oublieras, tu m'oublieras. Sur le quai de la gare, je pleurerai en pensant à toi. Pourquoi tu pars ? Tu pars.
partir, t'endormiront toutes les choses à deux qu'on aurait pu se dire, à deux se dire. À côté des aiguilles d'un rêve, elles attendront toutes les heures à deux qu'il nous restait à vivre, restait à vivre.
Toutes les promesses de mon amour iront avec toi. Tu m'auras